À la fin du 19e siècle, la plupart des habitants des pays occidentaux pensaient que l'histoire progressait inexorablement vers un nouveau paradis terrestre. Les progrès de l'homme dans tous les domaines, y compris en matière sociale, ne laissaient entrevoir que des jours radieux. Mais au XXe siècle, après deux guerres mondiales, où la boucherie était la règle du jeu, avec des conflits armés qui n'en finissent jamais, la violence gratuite d'actes terroristes et l'effondrement quasi total des valeurs morales, le monde a déchanté. L'optimisme naïf rose-bonbon qui était encore à la mode il y a un peu plus d'un siècle a laissé la place à la couleur réaliste du deuil. Pourtant, les Écritures enseignent qu'un jour ce sera effectivement le ciel sur la terre, mais seulement après que les fabuleux ouvrages des hommes soient totalement détruits et la nature ait subi un facelifting, une métamorphose complète. La seule solution au problème de l'homme est l'instauration d'une monarchie absolue avec à sa tête un roi bienveillant qui impose la paix et la justice par la force. Bien entendu, la venue de ce roi glorieux ne se fera pas sans une opposition féroce de la part des cohortes démoniaques et des hommes impies. Les 7 années de tribulation qui précéderont le retour du Seigneur verront une période de 3 séries d'intenses jugements, les sceaux, les trompettes et les coupes. Elles auront pour but d'anéantir tous les pécheurs qui refusent de se soumettre à Dieu et de déloger l'empire du mal instauré sur terre par le dragon, Satan, la première bête, l'Antichrist, et la seconde bête, le faux prophète. Je continue à lire dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. « Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leurs armées pour combattre le cavalier et son armée. » Verset 19. Satan, le dragon, a rassemblé ses armées pour combattre le cavalier, le seigneur de gloire, et l'empêcher d'établir son royaume sur terre. Quelle folie! Qu'est-ce que Satan pense donc accomplir? Quant aux chefs militaires, ce ne sont que des marionnettes entre les mains du diable. Ils n'ont aucune idée de la véritable raison de leur rassemblement. Ils croient être venus à la grande kermesse d'Armageddon pour en découdre avec d'autres nations. En effet, le prophète Daniel mentionne des guerres entre l'Antichrist et le roi du Midi, auxquelles se joindra le roi du Nord. Cependant, les combats les plus sanglants auront lieu en Palestine. Mais tout à coup, c'est fini. Je continue le texte. La bête fut capturée et avec elle, le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans les temps ardents de feu et de soufre. Verset 20. La défaite de la bête et du faux prophète précède le jugement de leur maître, le dragon. Ces deux chefs politiques et religieux ont l'honneur d'être les premiers à se voir jetés vifs dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est un lieu d'incarcération et de jugement permanent. C'est l'ultime destination de tous ceux qui ne sont pas rachetés. C'est ici la première fois que ce lieu épouvantable est mentionné dans les Écritures. Je finis le chapitre 19. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Verset 21. Tous ceux venus combattre se massacrent entre eux. Mais en réalité, c'est le Seigneur qui est responsable de leur mort et de l'ignominie qui suit. Un festin gargantuesque et le bar est ouvert. Les oiseaux de proie sont conviés à se repaître de chair et à s'enivrer de sang. Nous arrivons maintenant à une page fantasmagorique du livre de l'Apocalypse. Le chapitre 20 qui raconte l'instauration par Jésus-Christ du millénium, le royaume de Dieu sur terre. Les hommes ont pourtant bien essayé de créer un monde meilleur, car sans le savoir, ils aspirent au paradis perdu. Mais ils ont essuyé échec sur échec. Dans son célèbre chant « Imagine », John Lennon a mis en vers le soupir de son propre cœur. Il écrit « Imagine qu'il n'y a pas de paradis ». C'est facile si tu essayes, pas d'enfer sous tes pieds. On peut en effet tout imaginer. Imagine un monde sans injustice, dominé par le droit et la bonté. Un monde où tout le monde est traité avec respect, où toute la vérité et rien que la vérité gère toutes les institutions, les échanges, le commerce, l'éducation, le gouvernement et les relations personnelles. Imagine un monde où règne une paix totale, où tous les hommes sont heureux et en bonne santé, au point de vivre plusieurs siècles. Imagine un monde sans aucun cataclysme naturel, où seule une eau limpide et pure coule dans tous les cours d'eau, où le loup et l'agneau cohabitent et se délectent ensemble de l'herbe des champs. Imagine un monde dirigé par un souverain parfait et glorieux, qui ne veut que le bien de ses sujets. C'est un rêve, une utopie, un fantasme impossible. Et pourtant, c'est la description du paradis retrouvé que le Seigneur Jésus-Christ établira sur terre. Son règne à venir est le point d'orgue de l'histoire de la rédemption et l'exaucement du profond soupir de tous les êtres humains depuis toujours. Si on considère le chapitre 20 sans préjugés et qu'on le prenne au pied de la lettre sans chercher midi à 14h, il est facile à comprendre. Toutefois, beaucoup de commentateurs bibliques adoptent un point de vue qui consiste à éliminer purement et simplement le règne de 1000 ans de Jésus sur cette terre. Selon la perspective post-millénariste née au XVIIe siècle, les 1000 ans représentent le triomphe de l'Église de Jésus-Christ. Après une longue période dorée et de durée indéterminée, mais marquée par la paix, l'harmonie et la prospérité, Jésus reviendra pour trouver sur la terre un monde christianisé. Cette vision supra-optimiste s'est répandue au XVIIIe et XIXe siècle, grâce entre autres à la révolution industrielle et l'avancement des sciences et techniques. Mais comme je l'ai dit, au XXe siècle, cette croyance a été sérieusement mise en brèche et pratiquement abandonnée, à cause des grandes guerres et parce que beaucoup de mouvements antichrétiens se sont développés. La seconde perspective qui élimine le règne littéral de Jésus est l'amillénarisme, un point de vue qui est très répandu dans les milieux chrétiens. Selon cette approche, les prophéties de l'Ancien Testament et le millénium s'accomplissent actuellement dans l'Église, car le règne du Seigneur est purement spirituel et a lieu dans le cœur des croyants, qu'ils soient ici-bas ou déjà là-haut dans le ciel. Pourtant, jusqu'à la fin du second siècle de notre ère, tous les croyants sont pré-millénaristes, c'est-à-dire qu'ils adoptent une lecture littérale de toutes les Écritures. L'Église croit alors que Jésus reviendra sur terre pour y régner pendant 1000 ans. On sait en tout cas que c'était la conviction des pères de l'Église, comme Papias, disciple de l'apôtre Jean, Irénée, évêque de Lyon, Justin le Martyr, Tertullien, mais aussi l'auteur de l'épître de Barnabas. Ce consensus fut battu en brèche par l'école d'Alexandrie, plus particulièrement par Origène, qui préférait une interprétation allégorique des Écritures. Eusèbe, célèbre historien ecclésiastique, a lui aussi rejeté un millénium littéral, ainsi que Jérôme qui traduisit la Bible en latin. Mais c'est surtout l'influence de saint Augustin, le plus grand théologien de l'Église primitive, qui a donné à l'amillénarisme ses lettres de noblesse et l'a propulsé pour en faire l'approche dominante de l'Église pendant des siècles. C'était aussi la perspective des réformateurs, mais il faut dire que leur fer de lance était la doctrine du salut par la foi seule, et comme ils risquaient leur vie à tout moment, ils avaient d'autres chats à fouetter que de se préoccuper de l'interprétation des textes concernant la fin des temps. Que ce soit les amillénaristes ou les post-millénaristes, ils reconnaissent que dans la mesure où on fait une lecture littérale des écrits prophétiques, on est naturellement conduit à croire au règne terrestre de 1000 ans de Jésus, avec Israël qui occupe la première place parmi les nations. Étant donné que toutes les prophéties qui concernent la première venue de Jésus se sont littéralement accomplies, il semble évident qu'il en sera de même de celles qui concernent sa seconde venue. De plus, si on rejette les règles normales d'interprétation de texte, il n'existe plus de critères objectifs pour déterminer le sens des mots et du passage. Et on en vient alors au chacun pour soi et selon sa fantaisie. Les prophéties sont premièrement destinées aux Israélites. Or, sous le régime de la loi, quand on leur en faisait la lecture, les prophéties étaient littéralement comprises et jamais il n'a été question de les appliquer à l'Église qui de toute façon n'existait pas et dont il n'est pas question dans l'Ancien Testament. Le système d'interprétation des amillénaristes est incohérent pour plusieurs raisons. Ils utilisent la méthode littérale, historique, grammaticale et contextuelle pour les passages non prophétiques des Écritures, mais changent soudainement leur fusil d'épaule dès qu'ils sont en face de ce qui leur paraît prophétique. Pourtant, ils acceptent comme littéraux les prophéties qui annoncent la seconde venue de Jésus, le jugement dernier et la création de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais ils rejettent le règne de 1000 ans. En ce qui concerne les malédictions et les bénédictions de la loi, les amillénaristes appliquent les premières littéralement à Israël et les secondes spirituellement à l'Église, ce qui est tout de même bien étrange. Dans l'évangile de Luc, la première partie de l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie est « Voici bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu le nommeras Jésus ». Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Les amillénaristes prennent ces paroles à la lettre, littéralement. Par contre, la suite du discours de l'ange, « Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » n'est plus littéral, mais spiritualisé par les amillénaristes. Ce genre de gymnastique intellectuelle est incohérent, car on ne peut pas saucissonner l'interprétation d'un même discours en fonction de ses préférences personnelles ou selon deux méthodes différentes, à moins que l'auteur indique clairement qu'il passe du coq à l'âne dans sa façon de s'exprimer. Tout ça pour dire que l'établissement du millénium, dont il est largement question dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, s'accomplira littéralement tel qu'il est écrit. Cependant, pour que l'instauration du royaume de Dieu sur terre soit possible, plusieurs conditions doivent être réunies. Premièrement, il faut mettre à plat les révoltes humaines contre l'autorité de Dieu et supprimer tous les rebelles. Ce sera chose faite, soit pendant la campagne d'Armageddon, soit lors du jugement des boucs. Quant à la bête, l'Antichrist, et la seconde bête, le faux prophète, ils inaugurent l'étang ardent de feu et de soufre qui vient juste d'être ouvert pour accueillir les rebelles. Qu'on se le dise. Deuxièmement, il faut que la malédiction du péché soit en grande partie ôtée de manière à ce que toutes les maladies disparaissent, que tous les insectes, animaux et poissons deviennent végétariens et que l'ensemble de la terre soit arrosée au bon moment afin que les déserts se couvrent de verdure. Troisièmement, les croyants de l'Ancienne Alliance doivent ressusciter afin de participer au royaume du second David selon les promesses que l'Éternel a faites à son peuple. Quatrièmement, après avoir réglé le compte des deux bêtes, il faut que Satan, leur méchant maître, soit mis hors d'état de nuire. Quand un nouveau gouvernement se met en place, il y a beaucoup à faire. Le roi des rois aussi a une longue liste, et en premier lieu, il doit emprisonner celui que les Écritures appellent le Dieu de ce monde qui aveugle les incrédules pour les empêcher de voir briller la lumière de la bonne nouvelle. Ce personnage est aussi le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu, écrit l'apôtre Paul. C'est Satan, la tête pensante, qui encourage les rébellions de l'homme contre Dieu. Son incarcération et avec lui ses hordes de démons changera radicalement la dynamique du monde, ce qui fait que Jésus pourra régner sans être constamment en butte à des mauvais esprits comme lors de sa première venue. Soit dit en passant qu'aujourd'hui, si Satan ne fait pas ce qu'il veut, il n'est pas lié non plus, car il exerce une forte influence sur le monde et même dans l'Église. Il ne sera rendu inopérant qu'au début du millénium, puis sera brièvement relâché à la fin. Je commence maintenant à lire le chapitre 20 de l'Apocalypse. « Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. » Versets 1 et 2. L'expression « puis je vis » signifie que nous avons ici la suite chronologique de la série d'événements du chapitre précédent qui avait été introduite par « après cela ». Dans le texte grec, 15 versets du chapitre 19 commencent par le mot « et » qui indique souvent des actions qui se suivent logiquement et chronologiquement. Dans le chapitre 20, tous les versets, sauf un, commencent également par le mot « et ». La linguistique et la grammaire suggèrent donc que Jean raconte des événements qui, dans sa vision, se suivent l'un après l'autre. Soudainement, Jean voit apparaître un ange qui descend afin de ligoter le diable. Son identité ne nous est pas révélée. Cependant, on a de bonnes raisons de penser à l'archange Michel, car Dieu fait souvent appel à lui quand il s'agit de combattre le diable. Qui que soit cet ange, il possède la clé de l'abîme, ce qui signifie que Dieu lui a délégué l'autorité de l'ouvrir et de le fermer. De plus, il est puissant, car capable d'enchaîner Satan et de le jeter dans un cachot où il sera confiné pendant 1000 ans. Le mot traduit par « abîme » est utilisé 7 fois dans l'Apocalypse. C'est une prison temporaire pour les démons les plus vils et les plus méchants. Certains ont été relâchés lors du jugement de la 5e trompette, et Satan sera libéré à la fin du millénium. Mais tous les autres seront transférés directement de ce lieu d'incarcération à l'étang de feu et de soufre, la destination finale de toutes les créatures rebelles. De ce lieu maudit, nul ne sortira jamais. L'ange saisit donc Satan, qui est aussi appelé dragon, serpent ancien et diable, les mêmes titres qui lui ont été déjà donnés quand il s'est fait sortir du ciel. C'était sa première descente, maintenant a lieu la seconde. Ces défaites successives du diable sont dues à la victoire de Jésus sur la croix qui bénéficie le ciel et les hommes. Dans l'Apocalypse, Satan est désigné 12 fois comme dragon, ce qui souligne son aspect bestial, féroce et cruel. Le titre de serpent ancien rappelle son rôle dans le jardin d'Éden lors de la tentation d'Ève. Le mot « diable » veut dire « calomniateur », un titre qui va comme un gant à celui qui est aussi appelé « l'accusateur de nos frères ». Jésus a dit aux Juifs qui voulaient le faire mourir qu'ils avaient le diable pour père, car depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il est menteur, lui, le père du mensonge. Le mot « Satan » signifie « adversaire », celui qui s'oppose. Il est utilisé plus de 50 fois dans les Écritures. Je continue maintenant le texte. « L'ange précipita le dragon dans l'abîme, qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples » avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Verset 3. 1000 ans est répété 6 fois dans ce chapitre. L'ange met en avant l'aspect trompeur de Satan. D'ailleurs, dès qu'il est relâché, il recommence immédiatement à égarer les peuples, ce qui est, semble-t-il, son occupation favorite. Mais pendant 1000 ans, il sera totalement mis hors d'état de nuire, autant lui que ses hordes démoniaques. Dieu ne l'autorisera pas à influencer quiconque de quelque manière que ce soit. Mais après ces 1000 ans, il est remis en liberté et alors, en 2 temps 3 mouvements, il arrive à récupérer sous sa houlette une grande partie des gens nés des croyants qui seuls avaient été autorisés à entrer dans le royaume. Satan conduit alors une insurrection contre le Seigneur à la tête de ceux qui pourtant ont vécu toute leur vie dans un milieu paradisiaque. Cette tentative de coup d'État sera comme une sorte de test pour l'humanité et la preuve décisive que le cœur de l'homme est foncièrement méchant et qu'il n'a nul besoin de Satan pour faire le mal. Cette rébellion sera matée en un tour de main, puis viendra la fin des fins et le début de l'éternité avec la création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre.